France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est le 30e chapitre, le début des années 50, José Limón et Maria Callas au Mexique. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce 30e chapitre qui évoque le Mexique qui danse au rythme du mambo. Et pas seulement le Mexique, car c'est une flambée qui a gagné très vite tout le continent puis l'Europe au début des années 50. Et le roi du mambo à Mexico, c'est le pianiste et chef d'orchestre cubain Dámaso Pérez Prado. Il a commencé par travailler pour le cinéma, mais où a-t-il donc débuté sur scène avec ses musiciens ? Le journaliste Ivan Restrepo l'a bien connu, il raconte. Il a débuté dans la salle de danse Brasil, où il se produisait avec son petit ensemble, habillé d'une manière épouvantable, avec un bonnet qui rappelait celui que portait Buñuel sur certaines photos. C'est là que l'on connut Margot Sou et son mari, qui venaient d'ouvrir le théâtre Margot. Margot a convaincu son mari de l'engager et il y a débuté avec un contrat de 2 semaines le samedi de Pâques du 5 avril 1950 et il est resté 6 mois à l'affiche. Le mambo s'est alors répandu partout parce que les gens voyaient au théâtre Margot comment le mambo était dansé par 25 mamboletas, comme on appelait les danseuses. Le mambo dansé comme il se devait à la mexicaine et ça a été la folie.
Y fue la locura.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mambo.
We'll be right back.
le Mambo numéro 8 par l'orchestre de Pérez Prado. C'est dans ce Mexique de 1950, capitale du Mambo, que la cantatrice Maria Callas arrive pour la première fois. C'est au mois de mai, et c'est un moment mémorable, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans l'histoire de l'opéra au XXe siècle. Elle chante jusque la fin juin au Palais des Beaux-Arts, devenu l'opéra de Mexico, à deux pas du théâtre Margot, où depuis quelques semaines se produit Pérez Prado tous les soirs. C'est la basse Cesare Siepi qui a recommandé au directeur de la compagnie d'opéra, chargé de la saison internationale de la capitale, d'engager cette jeune fille qui l'a beaucoup impressionnée à la fois dans Wagner et dans Bellini. À Mexico, après ses débuts dans Norma, c'est surtout dans Aïda de Verdi et dans la Tosca de Puccini que Callas donne toute sa mesure devant un public en délire. Mexico s'enorgueillit encore aujourd'hui d'avoir permis à Callas de se faire connaître du jour au lendemain dans le monde entier par ses représentations. Maria Callas revient à Mexico en 1952 et nous l'entendons enregistrer cette année-là avec Giuseppe Di Stefano dans le duo du dernier acte de la Tosca. Maria Callas et Giuseppe Di Stefano dans le duo du dernier acte de la Tosca, l'orchestre du Palais des Beaux-Arts de Mexico dirigé par Guido Pico. Le Mexique, en 1950, rayonne vraiment de par le monde, à commencer par les États-Unis, où l'écrivain Jack Kerouac digne descendant de Breton de Brest, ne l'oublions pas, décide de partir au Mexique avec son ami Neil Cassidy. Une brève incursion qu'il raconte dans son livre « On the Road » sur la route. Il a en tête les mambos de Pérez Prado. D'autant plus que le musicien américain Sonny Burke, en vacances au Mexique, avait adapté et joué avec son orchestre à travers les États-Unis son premier mambo qu'il avait lui intitulé le Mambo Jumbo. Nous avions enfin trouvé le pays magique au bout de la route, écrit Kerouac. Et nous n'avions jamais imaginé l'ampleur de cette magie. Nous étions immédiatement transportés dans le désert, avec en face de nous les montagnes immenses aux sommets enneigés. En arrivant dans un village, le patron d'un bar leur sort plusieurs disques, dont le Mambo Jumbo de Sonny Burke, et tout le monde danse. Les trompettes résonnaient tellement, écrit Kerouac, que j'ai pensé qu'on devait les entendre dans le désert. L'orchestre de Sonny Burke dans ce mambo inspiré de Pérez Prado et adapté à la sauce nord-américaine. Le Mexique de par le monde, c'est aussi Octavio Paz, qui réside en France où il est alors diplomate et où il écrit son premier grand chef-d'œuvre, Le labyrinthe de la solitude. Un essai par lequel il tente de décrypter le mystère de l'homme mexicain et qui devient page après page une belle réflexion philosophique sur l'homme tout court. Il est naturel, écrit-il, qu'après l'explosion de la Révolution, le Mexicain se recueille en lui-même et se contemple un moment. Le Mexicain se penche sur son passé pour extraire sa filiation des entrailles de son intimité. Notre culte de la mort est un culte de la vie, de la même façon que l'amour affamé de vie est un désir ardent de la mort. Dans la clameur de la nuit de fête, notre voix est une déflagration de lumière. La vie et la mort se confondent. Car le solitaire mexicain aime les fêtes et les réunions publiques. Nous sommes un peuple rituel. L'art de la fête, avili partout, est resté intact chez nous. Et cette fête, traversée d'éclairs et de délires, est comme l'envers brillant de notre silence, de notre réserve et de notre caractère farouche.
Thank you.
Patricia Garcia Torres violon et Sava Latsanich piano interprétaient deux mouvements de la suite pour violon et piano de Manuel Enriquez, qui avait alors 24 ans et qui allait devenir un compositeur mexicain important. En 1950, c'est le retour au pays d'un des plus grands danseurs du XXe siècle, José Limón. Il est de retour des États-Unis dans ce Mexique qu'il a vu naître et qu'il a quitté enfant quand ses parents ont fui la Révolution. C'est le peintre Miguel Covarrubias, nouveau directeur de l'Institut des Beaux-Arts, qui l'a fait venir. Covarrubias est un homme aux multiples talents. C'est à Paris qu'il a débuté en 1925, quand il a dessiné les costumes et les décors de la revue Nègre avec Josephine Baker. On comprend mieux sa passion pour la personnalité exceptionnelle de José Limón quand il assiste à New York à la création de son ballet « La pavane du mort », mort comme mauresque. Ce ballet, repris à Mexico en 1950, sera l'un de ses plus célèbres et Rudolf Nureyev en sera un interprète exceptionnel. La pavane du mort est inspirée d'une œuvre écrite par une des premières femmes de lettres anglaises, peu après l'Othello de Shakespeare, une pièce intitulée Abdelazer ou La revanche du mort. Et José Limón a utilisé la musique de scène qu'avait composée Henry Purcell. Le rondo notamment est resté très populaire. Nous l'entendons ici dans la version de l'orchestre de chambre anglais, dirigé par Raymond Lepod. Cet extrait de la suite d'Abdelazer de Henry Purcell était interprété par l'orchestre de chambre anglais dirigé par Raymond Lepard. José Limón reviendra deux fois à Mexico au cours de l'année 1951 et chaque fois, il donnera des cours aux danseurs mexicains. À deux pas du théâtre du Palais des Beaux-Arts, au théâtre Margot qui ne désemplit pas semaine après semaine, une jeune chanteuse fait sensation. Elle a immédiatement séduit Pérez Prado et Margot Sou, la directrice, qui l'a engagée. Elle s'appelle Maria Victoria et c'est une grande chanteuse de boléro. Elle est l'interprète idéale de Soy Feliz. Je suis heureuse qu'elle interprète en tournée et qu'elle enregistre avec l'orchestre de Luis Arcaraz.
No es aventura ni capricho, mi dulce sueño de ilusión. Si ya por fin unimos dos almas en un solo corazón, es que estoy tan enamorada como nunca. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Tus miradas me parecen dos luceros que se acercan y me besan con un beso nada más. Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero, que es mi dicha y mi ilusión. Pero es que en mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz.
Dans ce panorama de 1950, la télévision et le cinéma ne sont pas en reste. C'est en effet cette année-là que la télévision en couleur arrive aux États-Unis. Et curieusement, le Mexique y serait pour beaucoup, car c'est un certain Guillermo González Camarena qui aurait obtenu là-bas la patente du premier système du genre qu'il avait inventé au Mexique 10 ans auparavant. Le Mexique devra attendre 1963 pour que la première émission en couleur soit réalisée. Pendant ce temps, le cinéma mexicain va de succès en succès, et le film le plus célèbre, c'est Los Olvidados, Les Oubliés, réalisé par Luis Buñuel, qui remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1951. Buñuel avait quitté son poste au département de cinéma du Musée d'art moderne de New York pour s'installer au Mexique en 1943. Son collaborateur, le compositeur espagnol Gustavo Pitaluga, l'avait rejoint 3 ans plus tard et c'est lui qui a composé la musique du film. Le sujet traitait enfin de la vie urbaine contemporaine et surtout des quartiers défavorisés de la capitale. Et cela leur rappelait à tous les deux leur engagement avant la guerre civile dans le cinéma de l'Espagne républicaine. Hélas, Pitaluga n'étant ni syndicalisé ni de nationalité mexicaine, il n'a pas été autorisé à apparaître au générique sur ordre du syndicat mexicain des artistes. Seul son ami Rodolfo Halfter, avec qui il a collaboré, apparaît à l'écran. C'est ici la bande-annonce du film qu'on entend avec la fameuse scène où les gamins des rues jouent à la corrida, suivie de la danse espagnole numéro 2 de Gustavo Pitaluga. Ce n'est que dans un futur prochain que les droits de l'enfant et de l'adolescent seront reconnus. Mexico, la grande ville moderne, ne fait pas exception à cette règle universelle, et c'est pourquoi ce film, basé sur des faits réels, n'est pas optimiste et laisse le soin à la société civile de régler ses problèmes.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
No me gusta.
No, y tan grandote y tan gacho.
Mariquita.
Y además me tengo que ir a trabajar, hombre.
Entramos para los burros.
Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos vicenteando.
Mira qué delicado. Párate.
¿Sabes a quién vi?
Thank you.
La danse espagnole numéro 2 de Gustavo Pitaluga par Jorge Robaina. En 1950, c'est le compositeur Miguel Bernal Jiménez qui est à l'honneur au Palais des Beaux-Arts. Il poursuit ses recherches sur la musique baroque et notamment la musique religieuse. Il est le seul organiste mexicain connu internationalement. Son opéra Tata Vasco, créé l'année précédente, a été très applaudi. Bernal Jiménez s'était inspiré de la vie du premier évêque du Michoacán que les Indiens avaient surnommé affectueusement Tata Vasco. En 1950, c'est son concerto pour orgue qui est programmé le 6 octobre dans la saison de l'Orchestre Symphonique National. Nul doute que Bernal Jiménez connaissait celui de Poulenc, composé dans les années 30 et auquel il s'apparente. Comme lui, il n'a pas voulu écrire une œuvre religieuse, même si c'était une commande en l'honneur d'un évêque. Bernal Jiménez s'est d'ailleurs régulièrement heurté au conservatisme d'une partie du clergé mexicain qu'il a souvent moqué. Dans un mouvement, il s'inspire par exemple de l'archiprêtre de Hita, clerc espagnol du XVIe siècle emprisonné par l'Inquisition pour avoir exalté dans ses écrits l'amour et les plaisirs. Le premier mouvement, le maître des jongleurs, est dédié aux troubadours et à leur passion pour la musique et la poésie. Il est ici interprété à l'orgue par la Mexicaine Laura Carrasco.
Thank you.
le premier mouvement du concerto pour orgue et orchestre de Miguel Bernal Jiménez, Laura Carrasco à l'orgue, Eduardo Díaz Muñoz à la tête de l'orchestre symphonique Carlos Chavez. À la même époque à Paris, Octavio Paz redécouvre lui aussi avec passion la société et la culture du Mexique à l'époque des vice-rois qui a été oblitérée après la révolution de 1910. C'est une des périodes, écrit-il, qui a été biffée, effacée et falsifiée avec le plus de rage. Il est alors plongé dans le livre du poète Amado Nervo qui raconte la vie de Sor Juana Inés de la Cruz, Sœur Jeanne Inés de la Croix, cette religieuse du XVIIe siècle qui est une des plus grandes poétesses qu'ait connue le Mexique. Octavio commence alors une recherche qui durera des années jusqu'à la publication en 1982 de sa célèbre biographie Sor Juana Inés de la Cruz ou les pièges de la foi. La sagesse et la mémoire populaire ont même conservé un dicton qui a été écrit par elle. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Hommes sots qui accusez la femme sans raison, vous êtes la cause de ce dont vous l'accusez. Le compositeur Miguel Bernal Jiménez découvre lui aussi au Mexique des trésors oubliés, notamment les musiques composées au XVIIIe siècle par Antonio Sarrier. On doit au chef d'orchestre belge Ronald Zollmann, ici à la tête de l'orchestre de chambre de Suède, d'avoir enregistré la symphonie en ré d'Antonio Sarrière dont nous écoutions l'ouverture. En 1950, dans la musique populaire, de nouveaux artistes émergent soudain, comme un compositeur resté légendaire, José Alfredo Jiménez, qui écrit cette année-là sa première chanson, intitulée « Yo », c'est-à-dire « Moi », aussitôt interprété par le chanteur de Veracruz, Andrés Huesca, avec son ensemble. Comme l'écrit le journaliste Carlos Monsiváis, José Alfredo Jiménez en finit enfin avec la figure du macho. Il chante l'homme anti-héros, l'homme perdu, à côté de la plaque, le marginal. En un mot, l'homme vrai, qui, dans la défaite, assume la sentence qui a été émise à sa naissance. Face au coup du destin, chante ici Andrés Huesca, je me suis mis à boire et j'ai pleuré en pensant à tes baisers. Une gitane a lu dans ma main que tu m'adorerais, mais c'est trop tard à présent. Mon destin en a décidé autrement.
Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Que a tu cariño nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre.
Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma.
Yo que tanto lloré por tus besos. Yo que siempre te hablé sin mentiras.
Brindarte desprecio. Yo que tanto te quise en la vida.
Y ya porque les canta un proven y la tonada les gusta.
Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo me adoraría. Esa gitana ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía.
Hoy mi destino lleva otro rumbo, tu corazón se quedó muy lejos. Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono para estar parejos.
Yo que tanto lloré por tus besos. Yo que siempre te hablé sin mentiras.
Brindarte desprecio.
Yo que tanto te quise en la vida.
Ces années-là, la peinture mexicaine est à l'honneur dans de nombreux pays, notamment à la Biennale de Venise, qui a organisé une rétrospective des œuvres du Mexicain Rufino Tamayo. Après New York, c'est une découverte passionnante pour le public européen. Lui, qui avait été attaqué dans les années 20 par des muralistes comme Diego Rivera et Siqueiros, comme traîtres à l'esprit révolutionnaire, il les a soudain supplantés. Carlos Chavez fait appel à lui peu après pour la grande exposition mexicano-française de Paris. La grande peinture murale de Diego Rivera qui glorifiait Staline et Mao a été refusée. Paris découvre enfin Rufino Tamayo, un peintre majeur du XXe siècle. Au Mexique, en cet âge d'or de la danse, les peintres sont de plus en plus convoqués pour réaliser des décors et des costumes lors des nombreuses créations. En 1951, le jeune scénographe Antonio López Mancera, qui vient de sortir de la toute jeune école de théâtre et d'art de la scène, réalise le merveilleux décor du ballet El Chueco, le jeune infirme, dont la musique est de Miguel Bernal Jiménez. Un décor haut en couleurs qui représente la rue d'un quartier populaire qui mène à un sanctuaire où se rend une longue procession de pèlerins. La femme qui prend soin du jeune infirme le sort sur le seuil de la maison pour qu'il puisse assister au pèlerinage.
Thank you.
La première partie du ballet El Chueco de Miguel Bernal Jiménez, Fernando Lozano à la tête de l'orchestre symphonique Carlos Chavez. C'est le superbe danseur Guillermo Keys qui a réglé la chorégraphie et qui a joué le rôle du Chueco, du jeune infirme. Le décor et les costumes de Mancera sont très applaudis. Alors que le Chueco est victime des moqueries des jeunes du quartier, sa meilleure amie, la Guira, la jeune prostituée, vient à son secours. Il s'endort alors et rêve à des monstres dans lesquels il reconnaît les gosses qui s'en prennent à lui. Soudain, des anges descendus du ciel l'aident à se lever et à marcher. Ce n'est qu'un rêve, bien sûr, mais au réveil, tout a changé. Il accepte le monde réel, les gamins le respectent, la Guira et ses clients viennent l'embrasser, et quand passe une troupe de saltimbanques, la femme qui veille sur lui demande à un des pénitents du pèlerinage de le porter pour assister au spectacle. Alors que la nuit est tombée, El Chueco veut suivre les comédiens, mais il s'endort paisiblement. Miguel Bernal Jiménez s'en donne à cœur joie avec cette scène où les musiques populaires se mêlent aux fanfares, avec ce moment de tendresse quand le spectacle des saltimbanques entre dans les rêves du Chueco endormi.
Thank you.
El Chueco, le ballet de Miguel Bernal Jiménez par l'orchestre symphonique Carlos Chavez dirigé par Fernando Lozano. Après ce magnifique ballet représenté sur la scène du Palais des Beaux-Arts, on peut terminer la soirée en flânant dans la nuit mexicaine pour rejoindre le théâtre Margot, tout à côté, là où nous avions commencé cette émission. Et on y écoute cette fois le grand orchestre mexicain de Luis Arcaraz qui chante lui-même son grand succès, La Viajera. Toi qui voyages par les cieux et les mers en laissant derrière toi tant de cœurs meurtris, sache que mes chansons t'accompagneront toujours. Ah, la nuit mexicaine qui rêve à l'amour autour d'une table de cabaret avec bien sûr l'inévitable petit verre de tequila.
Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones.
C'est donc au populaire théâtre Margot de Mexico que s'achève cette émission. Rendez-vous dans le prochain chapitre de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, qu'on peut écouter aussi en podcast, attachée de production Nelly Portal.
À réécouter sur francemusique.fr.